découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du jeudi 18 janvier 2024. Dans son projet de réinvention, la bibliothèque Gabriel Roy accueillera bientôt un intervenant de milieu. Plusieurs raisons ont poussé la ville à créer ce poste. On assiste à une situation assez préoccupante de la pauvreté, de l'exclusion, de l'itinérance, de la toxicomanie et de la détresse depuis la pandémie, constate Angélique Bouffard, directrice de la section lieux culturels et arts publics au service de la culture et du patrimoine. En raison de ce contexte-là, la municipalité souhaite offrir aux citoyens des espaces en bibliothèque accueillants, inclusifs, sécuritaires et conviviaux, affirme-t-elle. La bibliothèque doit rester un lieu d'inclusion afin d'accueillir tout le monde, sans discrimination, ajoute Éric Thérien, directeur de la bibliothèque Gabriel Roy. L'un des objectifs principaux à travers cet intervenant sera d'assurer une cohabitation entre les différents types de clientèle. On rappelle que la rénovation et la transformation de la bibliothèque Gabriel Roy sont toujours en cours et l'ouverture est toujours prévue pour le 1er mars 2024. L'église Saint-Jean-Baptiste pourrait passer aux mains d'une communauté chrétienne non catholique. Une offre pour acquérir le bâtiment patrimonial a été déposée et sera présentée dimanche aux paroissiens. L'église Saint-Jean-Baptiste est fermée depuis 2015. Le diocèse de Québec débourse plus de 100 000 $ par année pour l'entretenir. Depuis près de 10 ans, le diocèse tente de trouver un nouveau propriétaire. Une autre communauté chrétienne a déposé une offre d'achat, confirme André Bernier, directeur général de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. L'offre est présentement examinée par le diocèse de Québec. Selon André Bernier, c'est un bon projet. On a eu l'approbation de l'évêque de poursuivre nos discussions pour arriver à une entente finale. Vêtements, jouets en plastique, outils, casseroles. Qu'ont en commun tous ces objets? Ils ne vont pas dans votre bac de recyclage. Pourtant, ils s'y retrouvent de façon systématique. Les Québécois ne savent pas toujours quoi mettre dans leur bac de recyclage, confirme un sondage de la firme Léger. On pourrait habiller une famille au complet dans un centre de tri tous les jours, nous dit Maryse Vermette, présidente directrice générale d'Éco-entreprise Québec. Il y a une bonne nouvelle. Presque tous les Québécois recyclent. Malheureusement, tous ne passent pas le test lorsqu'on leur demande si des objets peuvent aller ou non dans le bac de recyclage. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. l'homme dont l'esprit souple et vigoureux suit le rythme du soleil, le jour est un matin sans fin. Peu importe ce que dit la pendule ou ce que disent les attitudes et les labeurs des hommes, le matin est là lorsque je suis éveillé et que j'ai de l'aube en moi. L'entreprise de réforme morale est celle qui consiste à se libérer du sommeil. Comment les hommes peuvent-ils livrer un si piètre récit de leur journée s'ils ne l'ont pas pensé en état de somnolence? Ils ne sont pas si mauvais en calcul. S'ils n'avaient pas été vaincus par le sommeil, ils auraient accompli quelque chose. Les hommes sont par millions suffisamment éveillés pour le labeur physique, mais seul un sur un million est suffisamment éveillé pour produire une authentique forme d'effort intellectuel, et un sur 100 millions pour vivre une vie poétique et divine, ou divine. Être éveillé, c'est être en vie. Je n'ai à ce jour pas encore rencontré d'homme parfaitement éveillé. Comment aurais-je pu le regarder en face?
Faudra marcher, marcher vers le nord. Il me faudra marcher sans jamais m'arrêter. Le jour et la nuit sans jamais de répit. La route sera longue. La blessure est profonde. Il me faudra traverser la frontière. Traverser la rivière avant que la lune éclaire. Des myriades d'étoiles pour effacer la peur. Mon cœur bat plus fort, il s'arrache à la mort. Pour ma liberté, je vis. Pour ma liberté, on faudra marcher. T'accompagne, c'est ce que m'a dit mon frère. Dieu se cache au loin, très loin dans les montagnes. Loin des champs de coton, de nos pauvres maisons. Voilà le marais, ici où je vais. Il m'en faudra marcher, marcher vers le bord. J'ai au fond de moi les voix chantant l'espoir. J'ai au fond de moi le regard de mon père, un radeau de prière et les mains de ma mère. Il m'en faudra marcher pour ma liberté, pour ma liberté. Je viens, je viens. Ma liberté, je vis. Faudra marcher pour ma liberté.
Bienvenue en toute simplicité. Désolé pour le petit problème technique. C'est peut-être le froid là, qui fait que mon CD ne fonctionnait pas. Je vais peut-être devoir le remplacer. J'ai quelques lectures à vous recommander, ou en tout cas que j'ai fait cette semaine. D'abord, ma petite revue de presse. J'avais un article de la semaine dernière, pas cette semaine, que j'avais pas parlé la semaine dernière. C'est une chronique de Jean-François Lisée dans Le Devoir du mercredi 10 janvier. Seulement que c'est un rappel. Des fois, on a tendance à prendre pour acquis là, notre ce qu'on appelle le modèle québécois, notre filet social. Qui évidemment est toujours à améliorer, puis il y a toujours des problèmes sociaux. Mais quand même, notre modèle est quand même bon. Alors, il faut au moins préserver les acquis qu'on a. Puis dans son article, c'est ça, il parle d'une étude qui a été faite par l'Université de Sherbrooke. Alors, l'étude sur le pouvoir d'achat dévoilée début janvier par les spécialistes de la fiscalité de l'Université de Sherbrooke ne lésine pas avec les chiffres. De 2019 à 2023, les Québécois de toutes les catégories, seuls ou en famille, jeunes ou vieux, se sont enrichis. Ils ont surmonté le défi inflationniste et l'escalade des taux hypothécaires et se retrouvent aujourd'hui avec davantage de sous dans leur poche qu'il y a 4 ans. Évidemment, il y a toutes sortes de nuances à faire dans ça, mais quand même, c'est que notre filet social est meilleur qu'ailleurs. C'est ça que l'article dit, dans le fond. Comment cela est-il possible? Grâce aux augmentations de salaire qu'arrachent dans le privé des salariés qui, merci à la pénurie de main-d'œuvre, sont plus précieux que jamais. Grâce à l'augmentation de la générosité fédérale, notamment en matière d'aide familiale. Mais le Québec fait mieux que tous nos voisins canadiens, car l'effet combiné des chèques distribués largement, de l'augmentation automatique d'une série de contributions sociales et, oui, l'entrée en vigueur des baisses d'impôts, hisse le portefeuille québécois loin au-dessus de la mêlée. Ayant toujours cru en, parfois défendu contre vent et marée le modèle québécois, je ne doute pas de la justesse de ses calculs. Il fut, par exemple, démontré que le citoyen québécois moyen avait mieux résisté à la récession provoquée par la crise financière de 2008 que la plupart des Occidentaux. Notre filet social est plus robuste. La volonté de nos gouvernements de nous venir en aide par temps froid est plus prompte et plus efficace. En tout cas, c'est comme je dis, il faut toujours relativiser puis voir qu'il y a toujours des améliorations. Il y a encore des gens qui ont des problèmes financiers, là, mais quand même, il faut au moins reconnaître ce qu'on a, puis le préserver. Autre petit article dans le Devoir de jeudi, hier, sur l'alimentation. Alors ça, on en parle souvent au niveau de la lutte au changement climatique, puis de l'amélioration de la qualité de vie. C'est un point où on a du pouvoir, c'est de la façon dont on s'alimente. Alors, il y avait une question posée. C'était un article de Sarah Champagne, comme je disais dans le Devoir de jeudi, « Mieux manger pour la planète ». Les questions sur l'impact des différents régimes alimentaires reviennent souvent sous diverses formules dans notre boîte courriel. Sempiternelle, peut-être, mais elle semble continuer à vous préoccuper. Nous avons, par exemple, reçu un message qui se demande si manger du bœuf élevé localement est aussi dommageable pour l'environnement que de manger végé, mais pas local. Et un message de Marshall Govindan qui nous demandait de vérifier si les effets de l'industrie de la viande sur le climat sont plus importants que ceux de l'automobile. L'élevage animal est en effet responsable d'une part significative des GES sur la planète. Preuve en est que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a déposé un rapport qui souligne qu'il faut impérativement en réduire les émissions en marge de la COP28 en décembre dernier. Selon les calculs présentés dans son rapport, l'élevage animal est responsable de 12 % des émissions totales et de 40 % de celles liées à la production alimentaire. On s'attend aussi à une hausse de 20 % de la demande des produits issus d'animaux d'ici 2050. À l'échelle mondiale, s'inquiète la FAO. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que on en parle souvent, il faut tranquillement, progressivement transitionner vers un régime alimentaire moins de viande, autrement dit, plus végétal. Alors, la réponse courte à la question du moins par rapport aux émissions de GES, l'empreinte d'un aliment est davantage liée à sa production qu'à son transport. En d'autres mots, ce qui ressort de plusieurs études est qu'un régime végétarien, même avec des produits transportés de loin, émet moins de carbone qu'un régime omnivore avec des produits locaux. Alors, on en parle souvent, là, l'alimentation, on a un pouvoir là-dessus. Et l'alimentation végétarienne, pour faire notre petite contribution pour la réduction des émissions, puis collectivement, bien, c'est facile. C'est un changement qui est à la portée de tout le monde. Dernière chose, j'ai dans le Devoir d'aujourd'hui la chronique de José Blanchet que je trouvais intéressant. Un vendredi bleu, oser le silence. Ces temps-ci, comme on en avait parlé, la nuit polaire, le froid, les journées courtes, mais aussi aller en forêt, ces temps-ci, on peut apprécier le silence. L'hiver, c'est une période de silence, on peut dire. Alors, Elle nous parle du silence dans sa chronique d'aujourd'hui. Si ce lundi était désigné comme le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, pourquoi pas un vendredi de janvier consacré au silence? Les réponses se trouvent rarement dans le bruit, si vous en cherchiez une seule. Et parler du silence, c'est comme vouloir expliquer l'amour. Le mystère nous échappe. Expliquer revient à trahir. Plusieurs se sont tout de même lancés, dont le regretté moine Thich Nhat Hanh, dans les bienfaits du silence. Une fois que vous aurez pu revenir au calme, que vous aurez pu établir en vous le silence, un silence foudroyant, vous commencerez à entendre l'appel qui vient du plus profond de vous-même. Pour avoir écouté et chéri le silence toute ma vie, surtout en écrivant, laissez monter la source, je sais que je ne peux vivre sans. Je plains les agités du bocal qui changent de bande sonore toutes les heures. Je me suis même procuré un casque d'écoute pour ne rien entendre, même pas du bruit blanc. Mutisme, du latin mutus, muet, muté en anglais. Un peu plus loin dans son article, elle nous parle d'un livre de Marc de Smet qui a été réédité sur le silence. Alors, l'essai de Voyage dans le non-dit, cet éloge du silence de Marc de Smet n'est pas récent, tout s'en faut. C'est un livre réédité récemment, revu et augmenté plusieurs fois, publié il y a presque 40 ans, pré-Internet, et qui se vend toujours, bon an, mal an, un long seller qui ne s'est pas démonté et reste toujours démodé et qui reste toujours pertinent. Et pour cause, le monde extérieur et intérieur est de plus en plus bruyant. La faute à tous nos écrans, ça empoisonne. La pollution psychique est de plus en plus énorme, me glisse l'auteur en entrevue rencontrée fin septembre lors de son passage à Montréal pour donner une conférence. Il évoque l'actuelle frénésie de la société humaine et l'angoisse qu'elle crée. Et l'auteur constate à quel point les Occidentaux ont peur du silence car ils l'associent à la mort, qu'il est conscience avant tout. Pratiquant bouddhiste zen de l'aride école Soto, directeur de la défunte revue Nouvelle Clé, qui explorait les traditions spirituelles durant plusieurs années, Marc de Smet s'intéresse au silence depuis des décennies et à la gymnosophie, gym de la sagesse. Pas besoin d'être bouddhiste ou hindouiste pour apprendre à se ressourcer. Il faut aller vers des exercices qui impliquent le corps, jogging, natation, peuvent se faire avec une conscience d'être comme une méditation. Le silence est en soi, souligne Marc de Smet. Même dans le métro, au milieu de l'agitation, on peut tomber amoureux de notre respiration, comme disait Thich Nhat Hanh. Dès qu'on se rembranche, il se passe quelque chose. Son livre fait le tour de la question sous plusieurs angles. Nous l'avons peut-être oublié. Nous sommes des êtres porteurs de toute la sagesse immémoriale du silence. Silence est le seul mot masculin se terminant en « ans », note Smet. Il s'intéresse à l'art dans son livre et me parle du silence des musées où les œuvres nous parlent de façon fracassante, car l'artiste y a mis toute son âme. Les hommes de peu de mots sont les meilleurs, disait Shakespeare, qui a écrit beaucoup. Alors, c'est un livre que je vais aborder là, dans des missions futures, qui est L'éloge du silence de Marc de Smet, qui vient d'être réédité. Ensuite, dernière lecture, c'est le dernier numéro de Philosophie Magazine qui vient d'entrer en kiosque. C'est le numéro de décembre, si je ne me trompe pas, ouais, décembre 2023, décembre-janvier. Décembre 2023, janvier 2024, y a-t-il des bons et des méchants? Et c'est, franchement, c'est un très bon numéro de Philosophie Magazine que je vous recommande. Si vous achetez pas souvent le Philosophie Magazine, celui-là, c'est un bon numéro. Il y a Bon, il y a un article qui parle de Thomas Piketty sur les inégalités, qui est toujours intéressant. Lui aussi, on va en parler dans l'émission éventuellement. Et aussi, Donna Haraway, elle aussi, je vais revenir avec elle dans une émission sur les animaux, entretien avec la grande voix du cyberféminisme, Donna Haraway, qui parle de comment reconnecter avec la vie en ayant un animal de compagnie, en connectant avec les animaux. Très intéressante, elle aussi. Il y a le cahier central, c'est sur des textes de Hannah Arendt, qui est toujours intéressante. Il y a un article aussi sur Marc Aurel, qui est un peu dans nos philosophes, qui reviennent régulièrement, nos philosophes d'Antiquité. Bref, en tout cas, je vous recommande le dernier Philosophie Magazine qui vient d'entrer en kiosque. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, quelques autres lectures, dont un petit suivi là, sur le film, le documentaire dont je vous ai parlé, là, de L'océan vu du cœur. Alors, c'était First Gymnopédie, première gymnopédie d'Éric Satie. Et c'est la harpiste Giannetta Barry. Et avant ça, comme je vous disais, c'est pas avec le problème technique, c'était Retour à Walden, Richard Séguin. Et c'était la pièce pour ma liberté. Puis au tout début d'émission, comme d'habitude, je vous ai lu un extrait de Taureau de Walden. J'en ai parlé là, quelques fois. Il est toujours disponible sur le site de TV5. C'est le vidéo, le documentaire, on peut dire plutôt. L'Océan à vue du cœur, c'est vraiment un beau documentaire que je vous recommande. Vous avez juste à écrire L'Océan à vue du cœur. C'est TV5 qui le rend disponible sur son site Internet. Et ça semble, c'est un peu la même formule de documentaire que le documentaire Demain, par exemple, avec différents intervenants, différentes personnes qui interviennent, dont une des dernières interventions là, d'Hubert Reeves. Et dans le film, dans le documentaire, on voit Hubert Reeves en train de lire un livre sur le plancton, qui est un Christian Sardet, qui est une des personnes qui apparaît dans le documentaire L'Océan à vue du cœur, parle du plancton, qui est un monde qu'on ne connaît pas, un monde en soi. Le plancton, c'est fascinant. C'est parce que c'est un monde microscopique qu'on voit, on voit pas à l'œil nu, mais c'est au niveau de la vie sur Terre, c'est très important. Puis on voit Hubert Reeves qui est comme surpris, qui est en train de lire le beau livre de Christian Sardet, là, qui s'intitule « Plancton aux origines du vivant ». Et je vais vous lire quelques extraits du livre de M. Sardet qu'on peut voir dans, justement, le documentaire là, « L'océan vu du cœur ». Alors, qu'est-ce que le plancton? Plancton vient de planktos, un mot signifiant erré ou dérivé en grec ancien. Vaste communauté d'êtres vivants, dérivant au gré des courants. L'écosystème planktonique est une ode aux origines et à la diversité de la vie dans les océans. Cette vie n'a cessé d'évoluer depuis plus de 3 milliards d'années. Aujourd'hui, les minuscules virus, les bactéries et toutes sortes d'êtres unicellulaires et multicellulaires jusqu'aux siphonophores, les plus longs animaux des océans, s'y côtoient. Avec eux, algues, pontes, embryons et larves, krill et méduses, microscopiques ou géantes, voguent au gré des courants. Près de 98% de la biomasse des océans est constitué de l'invisible multitude des organismes du plancton, alors que ceux qui sont visibles, comme les céphalopodes, poissons ou mammifères marins, ne représentent pas plus de 2% de la matière vivante. Dans le plancton, les organismes qui dérivent leur vie entière avec les courants, comme les crustacés du krill et des animaux gélatineux, méduses et salpes, côtoient des vélèles et physalies qui naviguent en surface, poussés par les vents. Les êtres du plancton sont en interaction étroite et complexe. Parasitisme et symbiose sont la règle. C'est vraiment un beau livre que je vous recommande. Si vous pouvez le trouver à la bibliothèque ou vous le procurez, mais ça doit pas. C'est un livre qui doit quand même être dispendieux, là, mais les photos sont fabuleuses. C'est un monde en soi, le plancton. Et un peu plus loin, on parle des origines, une histoire mêlée de la planète et de la vie. 4,6 à 3,5 milliards d'années, la vie débute dans l'océan primordial. Notre planète, née il y a environ 4,6 milliards d'années, dans une atmosphère gazeuse et de gigantesques conflagrations de blocs de roches et de météorites glacées. La masse rocheuse en fusion s'est lentement refroidie à la suite de la condensation d'une atmosphère chargée de vapeurs d'eau et des pluies diluviennes d'un océan. Un océan primordial s'est formé. On peut se demander si la vie est née dans une mare boueuse, comme le pensait Darwin, ou près des sources hydrothermales, volcaniques des fosses océaniques. Peut-être même la vie est-elle venue de l'espace dans des blocs de glace qui ont refroidi et grossi l'océan naissant. Nous le saurons peut-être un jour. quoi qu'il en soit, il y a quelque 3,5 milliards d'années, un plancton originel naissait dans l'océan primordial. Il était constitué de cellules primitives, ancêtres des bactéries et des archées, capables de vivre en milieu dépourvu d'oxygène. Alors, c'est le plancton qui constitue, comme il dit, 98 % de la vie dans l'océan, bien, c'est de là que tout la vie a commencé là. Nous venons tous, nos ancêtres, c'est le plancton. Alors, c'est un monde qui est peu connu, qui mérite d'être connu parce que c'est un monde fabuleux, fascinant. Et quand tu es dans le livre, on voit que c'est des grossissements microscopiques de qu'est-ce que c'est le plancton. C'est très surprenant. Alors, voilà, c'est un petit rappel du documentaire L'océan vu du cœur. Aussi, il y a une autre petite annonce, pour ceux qui s'intéressent, il y a en fin de semaine au Musée des Beaux-Arts un documentaire sur la bibliothèque d'Umberto Eco que je n'ai pas vu, là, que je vais aller voir, mais je pense que pour ceux qui aiment les livres, ça risque d'être intéressant. Alors, je prends une autre petite pause musicale. Puis au retour, on parle de philosophie.
Trois. Un, deux. Un, deux, trois. C'est le que c'est ça. C'est le musée. Mais c'est le pourquoi que c'est ça. C'est pour le jamais vu. Ah ben voyons donc. C'est le musée du jamais vu. Y a le fossile d'une belle femme avec la queue d'un poisson. Y a un cheval à talons hauts qui trotte et puis qui trotte à reculons. Y a une paire de siamoises qui veut pas décoller. Une qui fume et puis l'autre qui passe son temps à tousser. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi donc. Jamais vu, ah ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Y a un bessec à pédale pour rouler sur des œufs à la coque. Y a une machine pour exaucer tous les vœux qui disloquent. Y a le squelette au complet de l'homme à rayon X. Le bouchon pour le drain de l'océan Atlantique. Une pelle à deux manches pour les travaux forçants. Y a un arbre à éléphant. Y a un cyclope qui louche. Ben voyons donc. Des lunettes pour les mouches. C'est le que c'est ça, c'est le musée de la pourquoi non. Pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Tiens sous des cloches de verre, dans des bouteilles d'informel. C'est piqué sur des panneaux de Liège, ça nous demande qu'à y croire. Y a l'aurore boréale, y a un collier de rire. Y a une balayeuse qui danse dans la poussière d'avenir. Des longs rubans de temps, des enfants de 1000 ans. Une cage sans barreaux, avec la liberté dedans. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi c'est ça. Pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi c'est ça. Pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi c'est ça. C'est le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu.
Alors, c'est Fred Pellerin, le musée du jamais vu. Je vais reprendre un peu la lecture que j'avais commencée il y a 2 semaines sur le Philosophie Magazine hors-série. Lui aussi, il est en kiosque, le dernier hors-série Philosophie Magazine. Et très intéressant. C'est s'initier à la philosophie. Puis c'est ça aussi, je vous le recommande, c'est un ensemble de petits textes, beaucoup d'exercices. Bon, de s'initier à la philosophie, finalement. Et un des articles ici que je vais vous présenter, c'est sur l'étonnement. On dit que l'étonnement, c'est le début de la philosophie. Alors, quelques pistes pour s'étonner. Il suffit parfois d'une tasse, d'un sucre, d'un peu d'eau et d'une bonne dose de curiosité pour philosopher. C'est ce qu'a fait Bergson pour caractériser le temps qui passe. Alors, piochez dans ces méthodes celles qui vous attirent. Alors, il y a un ensemble de petits exercices là, que je vais en présenter quelques-uns. Alors, c'est un exercice que pratiquait Saint-Augustin avec la Bible. Prenez n'importe quel livre de philosophie, ouvrez-le au hasard et imaginez que son auteur vous glisse ses mots à l'oreille. De 2 à 7 lignes suffisent, à la condition de bien s'en imprégner. C'est le meilleur moyen d'apprivoiser la peur de ne pas comprendre. Voici 3 possibilités pour guider un peu le hasard. Ma préférence, fonctionner au coup de cœur. Quand même un débutant a des préférences. Faire de son livre préféré un oracle, celui qu'on consultera au hasard, mais en faisant des lignes lues, le conseil pour la journée ou la semaine. En passant, moi, j'ai fait des exercices comme ça. Si on lit, par exemple, Aristote, certaines des passages d'Aristote, là, on lit juste quelques lignes, puis quand on prend... Parce que souvent, on lit rapidement. Les écrits, par exemple, d'Aristote, c'est énorme, fait qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, mais c'est surprenant. Si on prend le temps de s'arrêter sur quelques phrases, quelques lignes, on voit qu'il y a, il y a beaucoup plus à première lecture, on voit qu'il y a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de profondeur. Alors, c'est un exercice là, de, au hasard, choisir un texte philosophique, puis de lire attentivement 6 ou 7 lignes. Choisir un ouvrage éloigné dans l'espace ou dans le temps, voir les deux à la fois, comme le papyrus égyptien, dialogue du désespéré avec son âme ou celui dont la thématique est inattendue, comme Indépendance ou philosophie du voyage en traîneau, d'Angel Kurt, que je ne connais pas. Pratiquer l'époché. L'époché désigne, dans l'école sceptique, une suspension du jugement, l'exact contraire de l'empressement à affirmer. Pour Husserl, le fondateur de la phénoménologie, cet exercice consiste à examiner ce que signifie une chose, le temps, la mort, la vérité, indépendamment de son existence particulière. Quel sens revêtent ces choses pour notre conscience quand on les pense avec rigueur et précision? C'est faire preuve d'esprit critique, se défier de ce qu'on tient pour évident. Par exemple, on entend partout parler de résilience, cette capacité à rebondir, à tirer profit des situations les plus difficiles. Que devient ce terme galvaudé si on lui applique la discipline de l'époché? Manière sceptique. Doit-on faire preuve de résilience en toute occasion? Dois-je résilier quand Jean-Claude rompt par SMS en me disant que je suis trop bien pour lui? Dois-je résilier quand mon voisin met du doom metal berlinois à fond à 2 heures du matin? Manière husserlienne, que signifie résilier? Est-ce réparer, reconstruire, consoler? Que reconstruit-on au juste? Alors, il y a comme ça un ensemble de petits exercices. Là. Comment muscler son étonnement? Plus loin, un autre article, les préceptes de base de la philosophie antique. Ça, on en parle beaucoup à l'émission. Faire de la philosophie suppose de mettre de l'ordre dans ses pensées comme dans sa vie. Un peu de discipline, s'il vous plaît. C'est même sur la base, non pas de se jeter à corps perdu sur des questions spéculatives vertigineuses, mais amarrer fermement son existence à certains principes pour lui donner forme. Et sur ce plan, les philosophes antiques ont des propositions qui n'ont pas pris un ride. Des propositions simples, parfois difficiles à respecter, souvent discutables, mais toujours éclairantes. Alors, ce qu'on dit depuis le début là, à l'émission, c'est que la philosophie dans l'Antiquité, c'était d'abord la pratique, un mode de vie. C'était moins spéculatif que la philosophie aujourd'hui. Alors, il donne quelques exercices à faire, quelques réflexions sur la philosophie antique. Alors ici, par exemple, Épictète qui dit « Tous les soirs, s'astreindre à un examen de conscience pour faire le bilan en bien et en mal de sa journée. Ne laisse pas le sommeil tomber sur tes yeux-là avant d'avoir pesé tous les actes du jour. En quoi ai-je failli? Qu'ai-je fait? Quel devoir ai-je omis? Commence par là et poursuis l'examen. Après quoi, blâme ce qui est mal fait. Du bien, réjouis-toi. » Alors ça, c'est une pratique de philosophie de faire le bilan de notre journée. Ne pas perdre son temps à blâmer les autres et se critiquer seulement soi. Où peut donc être réellement ton mal? Là où est aussi, pour toi, la faculté qui juge des biens et des maux. Que cette faculté s'abstienne de juger, et alors tout est bien. Ça, c'est Marc Aurèle, une citation de Marc Aurèle. Nous sommes contrariés, troublés ou peinés. N'en accusons jamais d'autres que nous-mêmes. C'est Épictète. Une autre citation aussi, ne pas envier autrui. Ces raisonnements ne sont pas concluants. Je suis plus riche que toi, donc je te suis supérieur. Je suis plus éloquent que toi, donc je te suis supérieur. Alors, Épictète, il dit, ne faut pas aller là. Ne pas répondre aux insultes et aux calomnies. On t'insulte, trouve la patience. Épictète. Faire son devoir, quoi qu'il en coûte. Si tu veux faire des progrès, laisse là toutes ces réflexions comme « Si je néglige ma fortune, je n'aurai pas de quoi manger. Si je ne châtie pas mon esclave, il sera vicieux. Il vaut mieux mourir de faim, exempt de peine et de crainte, que de vivre dans l'abondance et le trouble. » C'est Épictète. Ne rien faire en fonction des autres, seulement en fonction de sa conscience. Quand tu fais quelque chose, après avoir reconnu qu'il faut la faire, ne crains pas d'être vu le faisant quelquefois, quelque défavorablement que le vulgaire en doive juger. Épictète. Mettre à distance les grandes angoisses existentielles en les relativisant. Ne craignez pas les dieux, ne vous inquiétez pas de la mort. Le bonheur est facile à obtenir. La souffrance facile à supporter. Ça, c'est Épicure. Ici, une autre, Sénèque. Ne pas craindre l'avenir, ne pas regretter le passé. Loin de nous, donc, tout à la fois, et la crainte de l'avenir et les retours sur un passé désagréable. Celui-ci ne m'est plus rien, l'autre ne me touche pas encore. Ça, c'est Sénèque. Ici, une citation d'Épictète. S'exercer en toutes circonstances à séparer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Dès qu'une image ou une représentation viendra te troubler l'esprit, pense à te dire à son sujet, tu n'es que représentation et non la réalité dont tu as l'apparence. Puis examine-la et soumets-la à l'épreuve des lois qui règlent ta vie. Avant tout, voici cette réalité dépend de nous ou n'en dépend pas. Si elle ne dépend pas de nous, sois prêt à dire « Cela ne me regarde pas. » Épictète. Ça, c'est l'enseignement là, qu'on retient là, dans le manuel. Là, c'est ça, le manuel d'Épictète commence par ça. On se préoccupe de seulement de ce qui dépend de nous puisque ce qui ne dépend pas de nous. On s'en préoccupe pas. En tout cas, c'est une discipline, là. Toujours, comment je pourrais dire, c'est chacun applique selon sa réalité, selon les circonstances. C'est comme des grands préceptes généraux. Mais évidemment, pas toujours facile ou faisable, même. On a une autre citation de Marc Aurèle, « Développer une citadelle intérieure. C'est une citadelle que l'intelligence libérée des passions. l'homme n'a pas de position plus solide où se réfugier et rester désormais imprenable. Alors, voilà, il y en a un paquet comme ça. Alors, c'est dans le Philosophie Magazine hors série, s'initier à la philosophie. Alors, on prend une autre petite pause musicale, puis au retour, je vous parle d'un autre philosophe, Fabrice Midal. C'était l'ensemble Caprice, une fugue de Bach. Pour terminer l'émission, j'ai un autre livre dont je vous ai parlé là, cet automne. Là. Ça vient de sortir cette année. C'est un livre de Fabrice Midal. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Alors, c'est... plusieurs petits chapitres. Et je trouve que c'est sympathique. Là. C'est facile à lire. Puis c'est une philosophie pratique, comme on aime en parler à l'émission. Et il y a une vingtaine, une trentaine de chapitres. Alors, j'en prends un, qui est le chapitre 28, qui parle de, en gros, là, d'apprécier ce qu'on a. On a souvent tendance à voir ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on voudrait, puis on oublie de voir ce qu'on a déjà, apprendre à aimer ce qu'on a. Alors, le titre du chapitre, c'est « Oublie le prince charmant ». Ça commence par une citation de Rosa Luxembourg. « La vie est ainsi depuis toujours et tout en fait partie au même titre. Les souffrances, les séparations et les nostalgies. Il faut savoir la prendre dans son ensemble, sans rien en omettre, et trouver un sens et une beauté dans tout ce qu'elle présente. C'est du moins ce que moi je fais. » Voici, monsieur, je vous lis l'extrait là, de chapitre 28. « Au fil des pages qui ont précédé, je sais que je n'ai pas toujours été conciliant avec toi. Je t'ai enjoint d'être heureux et pour y parvenir, de trouver le courage de sortir des chemins convenus, des normes pesantes qui te cantonnent dans une tiédeur qui ne te ressemble pas. Je t'ai demandé d'écouter la puissance du désir qui peut t'emporter jusqu'au sommet du bonheur, de ne pas avoir peur de t'enflammer, d'être enfin toi-même et t'aimer comme tu es. Pour être heureux, il te faut aussi consentir à pardonner à la réalité les imperfections et les limites qui lui sont inhérentes. Car, et cela je ne l'ai pas encore dit, le prince charmant n'existe pas. Le prince dont je vais parler n'est pas seulement le beau chevalier ou la belle cavalière qui arrive au galop sur son cheval. Il est aussi cet idéal que tu recherches dans tous les moments de ta vie, mais que tu ne trouves pas partout. Le boulot idéal, la maison idéale, les vacances idéales, l'enfant idéal, l'ami idéal, la compagne ou le compagnon estampillé, lui ou elle aussi, zéro défaut. Tu lorgnes du côté du mari de Julie ou de la femme de Pierre, du travail d'André et des enfants de Marie, et tu te dis que tu n'as pas de chance. Ce que tu as, toi, est incomplet et boiteux. Ah, si seulement tu avais la même chose qu'eux, tu saurais enfin ce qu'est le bonheur, qu'est l'amour. Tu vas me pardonner ma brutalité, mais ce discours-là, je l'ai entendu trop de fois. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Tu es en train de te laisser égarer dans la grande illusion, dans une projection abstraite théorique qui a pour nom l'accaparement et qui t'amène à maîtriser tout ce qui appartient à la réalité. Tu désignes ton présent, que tu juges décevant, sans intérêt, ton conjoint qui s'endort devant la télé, etc., etc. Ton présent est loin des images du film qui tourne en boucle dans ta tête, où tout est lisse sans problème et sans aspérité. Tu préfères ne pas le regarder et te projeter dans le bonheur que tu imagines pour demain, celui que tu éprouveras quand adviendra telle ou telle chose, quand tu changeras de travail. Tu te noies dans le si et, entre-temps, tu vis dans la frustration. Alors, en fait, là, c'est que ce qu'il nous dit, c'est qu'on recherche la perfection alors qu'il faudrait voir ce qu'on a déjà, vivre dans la réalité, aimer ce qu'on a. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on va avoir Jacques Sénécal avec nous et avec sa chronique qui revient une fois par mois. Alors, bonne semaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de... personnes âgées, les gens ont besoin, et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public, des solutions existent.
Nous sommes le syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission de l'autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Monde musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Monde Musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Mercredi 24 janvier, on sort Tommy et Annie-Claude des studios. Pour la première émission de 2024, Le Monde en transition se tiendra devant public, en direct du Centre Jacques-Cartier. On parlera COP28 avec Anne-Céline Guyon de Nature Québec et enjeux municipaux 2024 avec Jackie Smith, conseillère municipale de Limoilou. Vous êtes invités mercredi 24 janvier dès